Le droit à l'oubli, c'est le droit, vous savez, à ce que certaines informations, des choses que vous avez faites par le passé, soient retirées, effacées ou déréférencées. C'est le droit de passer à autre chose, somme toute, alors de cette mémoire numérique qui enregistre tout et qui vous fige dans le passé. Le droit de préserver la possibilité de l'intimité aussi, à l'heure où tout est exposé. Le droit d'être personne ou au contraire d'être plusieurs, c'est un droit qui touche à notre identité, le droit à l'oubli. Comment ne pas y penser quand une affaire qui semblait réglée ressurgit de nulle part, sur internet, et vous cloue au pilori quand un post Facebook ou un tweet de 140 signes qu'on a écrit à tort, comme on dit tous les jours à tort, toutes sortes de conneries, vous détruit. Quand on sait que n'importe quelle personne qui fait une recherche sur vous tombera irrémédiablement sur cette même information qui vous touche parfois de loin, dont vous avez été peut-être même blanchi, ou qui ne représente, qui sait, que quelques secondes de votre vie. Le problème de ces tribunaux populaires, de ces humiliations sur la toile de ces procès, c'est qu'ils ont beau sembler légitimes, parfois, ça ne veut pas dire qu'ils sont justes. Dans un monde numérique où le jugement demeure, où la punition est écrite, noir sur blanc, et qu'elle est même possiblement infinie, qui a le droit à l'oubli ?
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a beaucoup à dire sur l'oubli, non seulement parce qu'il s'agit du titre de son dernier livre, mais parce que son œuvre romanesque, Depuis l'enfant éternel, sur la disparition de sa fille il y a 20 ans, interroge notre rapport au souvenir, à la mémoire, au présent. Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Se pourrait-il qu'il faille faire de l'oubli un droit ?
Ah, je le pense, oui, parce que comme vous le disiez, il y a quelque chose d'absolument terrible à être ainsi assigné à une certaine image de soi, qui de plus prend un caractère presque irrévocable avec la manière dont fonctionne Internet. Chacun de nous est plusieurs et en quelque sorte celui que je suis aujourd'hui n'est pas semblable à celui que j'étais hier et a fortiori celui que j'étais il y a 20 ans. En ce moment même, je suis quelqu'un, ailleurs je suis un autre.
Quel regard précisément est-ce que vous portez, vous, sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ils rendent nos pensées, nos souvenirs, nos erreurs irrévocables, comme vous dites, je dirais éternelles ?
Mais je trouve qu'il y a une grande violence là. Moi, je me tiens un peu à l'écart autant que possible. Je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de site internet. Mais en même temps, étant romancier, je ne peux pas me désintéresser de l'opinion des autres parce qu'elle est nécessaire au travail que je mène. Mais je regarde ça avec une certaine forme de réticence et parfois même d'effroi. Oui.
Ça dit forcément quelque chose sur notre époque ?
Oui, ça donne des moyens techniques nouveaux à quelque chose de très ancien qui est simplement l'envie, la malveillance et un phénomène de surveillance généralisée duquel il faut se protéger. Moi, je crois que toute identité, qu'elle soit individuelle ou collective, est une fiction. Et c'est une fiction terrible qui se façonne comme ça sur les réseaux. D'où la nécessité, chacun de son côté, et parfois sous forme de roman quand on est écrivain, de façonner sa propre fiction pour résister à celle que les autres veulent vous imposer.
Une fiction plus ou moins bien écrite d'ailleurs. Nous vivons dans un moment où, pour reprendre vos mots, dans l'oubli, le langage dont usent les hommes part en lambeaux. C'est ce que vous écrivez page 126. À quoi est-ce que vous mesurez cette dislocation du langage, Philippe Forest ?
À l'incompréhension que j'éprouve parfois lorsque je lis le journal, j'écoute la radio et j'ai l'impression qu'une autre langue est en train de s'inventer, de se parler.
Une nouvelle langue.
Voilà, exactement. Oui. Alors peut-être parce que ma propre langue est une langue déjà un peu ancienne, fossile, en passe de devenir une langue morte. Donc je n'ai pas un jugement réactionnaire, disons, sur le présent. Je trouve très bien que les choses évoluent, mais simplement j'exprime dans ce livre ce caractère un peu de sidération qu'on peut éprouver parfois lorsqu'on écoute les conversations des autres.
Par exemple.
Quand je lis le journal, il y a de plus en plus de mots qui appartiennent au langage des jeunes que tout simplement je ne comprends pas, sans parler des SMS qu'il m'arrive de recevoir de gens plus jeunes que moi et pour lesquels j'ai besoin d'une traduction.
Et puis dans le livre, vous parlez aussi de l'instauration d'un mode binaire dont toute nuance est exclue, d'un monde où s'exprimer revient à dire « j'aime » ou « j'aime pas ». Comment on en est arrivé là, à votre avis ?
Ah, je ne sais pas, j'ai pas vraiment proposé d'analyse rétrospective, mais en même temps, ça me fera beaucoup, notamment dans le domaine de la critique littéraire, qui se développe de plus en plus maintenant sur Internet. Il faut mettre des étoiles, des points, des choses comme ça. C'est assez étonnant. C'est très violent lorsque vous regardez les jugements que vos propres romans reçoivent de gens qui n'hésitent pas à aller du dithyrambique au très, très, très réprobateur.
Et c'est une simplification de la pensée.
Oui, oui, bien sûr, parce que une vraie critique littéraire, c'est quelque chose qui doit prendre le temps de se penser et de s'écrire. Donc, mettre une étoile ou cinq, c'est quelque chose de tout à fait antagonique, disons, au fonctionnement de la pensée.
Et c'est aussi de préférer, dites-vous, je parle sous votre contrôle, le point d'interrogation au point final.
Oui, moi, je suis hostile au point final. Je pense qu'il faut mettre des points de suspension un peu partout, des points d'interrogation, voire des points d'exclamation. Il faut se garder d'une pensée qui soit une pensée immobile, et c'est ce que le roman permet plus ou moins, justement, parce que le roman, il est du côté des questions qui restent sans réponse. Ce sont les questions sans réponse qui m'ont toujours intéressé, et c'est l'absence de réponse qui me conduit à continuer à écrire.
La simplification de la pensée, vous l'observez aussi dans l'exercice de votre autre métier d'enseignant, vous qui êtes professeur de littérature française à l'Université de Nantes.
Moi, je trouve que ce qu'on dit sur l'université ne correspond pas forcément à la réalité. Moi, j'ai enseigné très longtemps en Grande-Bretagne, dans des universités prestigieuses comme Cambridge notamment. Et quand je suis revenu en France, c'était il y a 20 ans maintenant, je trouvais que les étudiants français n'avaient rien à envier à leurs homologues britanniques.
C'est intéressant de vous entendre quand même dire ça.
Bah, tous les classements de Shanghai et autres, et là encore, j'ai l'occasion de voyager assez régulièrement dans des pays comme la Chine, justement. Me semble ne pas du tout correspondre à la réalité. Maintenant, il y a une crise de l'université qui est certaine. Moi, ce qui me désole, c'est plutôt de voir d'excellents étudiants que j'ai eus et qui, au sortir de leurs études, ne trouvent pas le travail qu'ils mériteraient.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça ? Là, c'est à l'enseignant que je m'adresse.
Vous entendez mon grand soupir de découragement.
Et les froids.
Je sais pas. Je pense que la solution, elle est plus politique et économique que liée à l'université. Je pense qu'il faut prendre garde à ne pas penser que la solution serait du côté d'une réforme de l'université qui tendrait à faire de chaque établissement une sorte d'entreprise soumise aux mêmes contraintes que les entreprises du public. L'université doit préserver sa spécificité tout en s'adaptant au monde moderne.
C'est ce que vous craignez, ce que vous venez d'énoncer.
Ah ben c'est la voie qu'on prend. Moi, quand j'enseignais à l'Université de Londres il y a plus de 20 ans maintenant, je voyais se produire les premiers effets d'une transformation de l'université britannique sur le modèle américain. Effets qui ont commencé à se faire sentir en France maintenant il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et on est en plein dedans, malheureusement.
Revenons au langage, si vous le voulez bien, Philippe Forest. Quel lien est-ce que vous faites entre cette dislocation du langage dont on parlait tout à l'heure, cette perte du sens aussi, et l'oubli ?
Ben disons que l'histoire que je raconte, c'est celle d'un homme qui se réveille un matin et qui a le sentiment d'avoir perdu un mot dans la nuit et qui, bien sûr, ne sait pas quel est le mot qui lui manque. Et à partir de là, cet oubli d'un mot prend des proportions telles que c'est toute sa mémoire dont il a le sentiment qu'elle se met à fuir et à couler. Voilà. De toute manière, les mots et les choses sont liés. Les choses n'existent pas tant qu'on ne leur a pas donné un nom. Et les mots, bien sûr, n'ont pas de valeur tant qu'ils ne renvoient pas à une chose. Donc, ces deux dimensions-là, celle du réel et celle du langage sont liées. C'est leur dissolution commune que j'essaye d'explorer sur un mode romanesque et sur le mode d'un conte et oui. Même parfois d'une farce, on peut dire.
Ou de la fable, je me disais. Ouais. Quelle en serait la morale pour vous ?
La morale, c'est qu'il faut se confier à l'oubli afin de garder la mémoire. Je crois que c'est une phrase de Blanchot, je l'avais entendue dans Histoire du cinéma de Jean-Luc Godard et elle me semble correspondre à l'hypothétique morale de mon roman.
Et que vous citez, si je me souviens bien, dans l'un de vos précédents romans, Sarina Gara.
C'est ça.
Vous dites aussi, somme toute, que l'une des fonctions de la littérature, c'est peut-être de tenter de formuler ce qui ne peut s'énoncer, de tenter d'énoncer l'indicible.
Oui, c'est parce que quelque chose nous manque. Alors moi, tous mes livres, depuis le premier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont construits à partir d'une expérience qui est l'expérience du deuil. Donc, mais je crois que c'est parce que quelque chose nous manque que nous écrivons des livres, non pas pour faire cesser ce manque, mais au contraire pour le faire exister. Donc je crois que la littérature a essentiellement un rapport à un défaut, à une absence, à une perte, et il s'agit d'essayer de faire avec cette absence.
Celle qui est dans la perte, dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, Philippe Forest, c'est à notre grand désespoir, la culture et son actualité qui nous laisse parfois absolument sans voix. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 16 février ?
Et toi.
et 3 nuits ce week-end. Mais bon Dieu qu'ils seront bons. Le groupe Indochine donne ce soir le premier d'une série de 3 concerts à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy. Jusqu'à lundi, à guichet fermé, la bande à Sirkis continue son 13 tours, amorcé en grande pompe la semaine dernière à Épernay. C'est nos délirantes shows high-tech et soucoupes volantes. Nicolas Sirkis, 58 ans, teint en blond pour l'occasion, promet du grandiose, des tubes et des synthés. Allez !
Donnez-moi.
Trente-six œuvres de sa collection personnelle d'art premier, c'est ce qu'a donné hier l'homme d'affaires Marc Ladrette La Charrière au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Proche de l'ancien président de la République, mais aussi de François Fillon, le milliardaire avait été mis en examen dans l'affaire de l'emploi fictif de Pénélope Fillon. Aujourd'hui, la valeur de son don s'élève à 50 millions d'euros. C'est la plus importante donation d'œuvres d'art de premier en faveur de l'État français depuis 1945. Merci qui ? Merci Marquis.
Alors la première page, c'était des animaux ou des choses. Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Radia de Bologna Ragazzi. Les éditeurs français ont raflé pas moins de 4 prix et 4 mentions au Bologna Ragazzi Awards, récompense de la célèbre foire de littérature jeunesse de Bologne en Italie. Parmi les lauréats, la maison du Rouergue Jeunesse repart ainsi avec 2 distinctions. Le prix Fiction avec L'Oiseau Blanc d'Alex Cousseau, illustré par Charles Dutertre, et une mention dans la catégorie Première œuvre avec L'Ascension de Saussure de Pierre Zenzius Bravissimo.
Top ! Je suis un personnage charismatique. Je crée l'environnement dans lequel vivent les hommes. Je suis...
L'architecte ?
L'architecte Georges-Henri Pingusson est à l'honneur d'une rétrospective inédite qui ouvre aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Proche de Jean Prouvé et de Le Corbusier, ce fer de lance du mouvement moderne français a notamment signé l'hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez ou le mémorial des martyrs de la déportation à Paris. 50 ans d'une œuvre au croisement du design, de l'art déco, de la reconstruction. C'est à découvrir jusqu'au 2 juillet et ça, c'est archi chouette. Et Philippe Forest qui s'inquiétait de la déperdition du langage et qui vient d'en faire une expérience malheureuse en écoutant ce journal de la culture. Invité de Boomerang ce matin pour son roman L'Oubli, un roman où le héros est confronté, Philippe, aux limites du langage. On le disait, un roman où le héros, qui est aussi écrivain, écrit sur ce qu'il ne peut pas raconter. Et comment ne pas penser, effectivement, vous le citiez, Philippe, à ce qui a motivé l'écriture de votre premier roman, L'Enfant éternel, il y a 20 ans. Vous dites souvent que sans la mort de votre fille, vous n'auriez pas été écrivain.
Oui, je crois que c'est vrai, oui. J'étais essayiste, j'étais enseignant, mais c'est parce que je me suis trouvé confronté à cette question sans réponse dont je parlais tout à l'heure, sous la forme donc de la mort, et particulièrement de la mort d'un enfant, et plus particulièrement encore de la mort de ma propre fille, que j'ai éprouvé la nécessité de passer au roman, non pas parce que le roman pourrait donner une réponse à cette question, mais parce qu'au contraire, le roman, pour moi, est la seule forme qui permet de se confronter de façon digne et durable à cette énigme-là.
Mais maintenant que l'indicible a été dit, qu'est-ce qui vous contraint à écrire aujourd'hui ?
Il ne l'est jamais vraiment, c'est pour ça que j'ai l'impression de livre en livre d'échouer et de devoir recommencer sous une forme différente pour ne pas être dans la fossilisation de ce que je fais et dans la déperdition de la vie. Oui.
Comme si le langage n'en finissait pas de vous échapper, somme toute. En quoi est-ce qu'écrire un roman, c'est toujours repartir de zéro avec le langage ? Parce que c'est ce dont témoigne, à mon avis, ce livre L'Oubli.
Oui, et particulièrement celui-là, j'ai voulu montrer un homme qui se trouve confronté à une sorte de page blanche qui va progressivement se remplir à mesure même qu'elle parle de l'impossibilité qu'il y aurait à la remplir. Chaque roman est un recommencement. À chaque fois que j'écris, j'ai l'impression que c'est à la fois mon premier roman et mon dernier roman.
Repartir de zéro au point de plus pouvoir parler du tout, de retrouver une sorte d'origine de l'avant-langage.
Il aurait mieux valu se taire, comme dit Aragon. Je crois qu'il y a une sorte, à partir du moment où on se met à écrire, on éprouve la nostalgie du silence qu'on a rompu. Et en même temps, on sait que la parole est indispensable, même si elle est coupable d'une certaine manière ou insuffisante.
J'aimerais lire un extrait de ce livre, Philippe Forest, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
J'avais le sentiment de désapprendre à lire. Le langage reprenait progressivement l'apparence insolite que je lui avais trouvée enfant lorsque je l'avais découvert. Du coup, de vieux souvenirs me revenaient. Je me rappelais, je croyais me rappeler, le grand abécédaire illustré qui pendait à l'un des murs de la classe maternelle. À chaque lettre, majuscule et minuscule, correspondait un mot dont il constituait l'initiale, choisi de telle façon que le graphisme de la voyelle ou de la consonne concernée ressemblait plus ou moins à la chose évoquée. Pour le A, un arbre à la cime toute pointue et dont la base puissante au niveau des racines s'évasait sur le sol. Pour le B, un bateau aux 2 voiles bombées que le vent soufflait du même côté du mât. Pour le C, un cerceau dévalant le long d'une pente dont seule une moitié restait visible. C'est intéressant, ce retour à l'enfance, Philippe Forest, l'enfance qui est toujours très présente dans vos romans. Quelle période est-ce que c'est pour vous ?
C'est une période qui n'a plus d'existence qu'imaginaire, et c'est vrai qu'on m'a fait parfois remarquer, comme vous le faites maintenant, et je crois que c'est assez juste, que l'enfant dont je parle dans mes livres, c'est à la fois l'enfant perdu que nous évoquions tout à l'heure, et l'enfant perdu que chacun d'entre nous
a été.
Voilà. Donc c'est une période purement imaginaire. Il y a un texte de Freud que j'aime bien, qui s'appelle « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci, dans lequel Freud dit que les souvenirs d'enfance, ça n'existe pas, parce que ce sont toujours les adultes qui se souviennent ou qui croient se souvenir des enfants qu'ils ont été.
Certes.
Aragon dit aussi, dans Le Mentir Vrai, « Je me souviens, non, j'imagine. » Se souvenir ou croire se souvenir, c'est en réalité s'imaginer. Donc on est en plein dans le romanesque, dans la fable, dans la fiction.
Une période imaginaire et une période aussi de prolifération de l'imagination, de découverte lorsqu'on est enfant. En quoi est-ce qu'écrire, c'est forcément opérer précisément ce retour à l'enfant qu'on a été ?
Ben, je crois que c'est parce que l'expérience du langage et l'expérience de la fiction s'originent dans des choses qui sont très lointaines. J'en parle parfois, mais moi j'ai le souvenir de ma mère me lisant lorsque j'étais enfant des histoires avant de s'endormir. Et je crois que si j'écris, c'est pour entendre à nouveau cette voix qui était la sienne et pour entendre également la voix qui était la mienne lorsque je lisais des histoires à ma propre fille.
Et que vous découvriez.
Voilà, que je redécouvrais avec elle. Je crois qu'on écrit parce qu'on veut qu'il y ait des paroles, des mots qui nous accompagnent dans le noir, parce que autrement le noir est trop difficile à supporter sans une voix aimée qui soit auprès de vous.
Quel enfant est-ce que vous étiez, vous ?
Impossible à dire, je pense que j'étais un enfant plutôt sage, rêveur, voilà, mais comme on disait tout à l'heure, hein, suis-je le même que celui que j'étais hier ? Alors, a fortiori, suis-je le même que celui que j'étais il y a 55 ans ?
Mais quand même, on vous a peut-être raconté, Philippe Forest, un enfant interpellé par les mots, par exemple ?
Ah oui, certainement, oui, c'est-à-dire j'avais une passion pour la lecture dès l'enfance, et elle vient sans doute des lectures, comme je le disais, qu'on me faisait, et je crois que ça a été constitutif de celui que je suis devenu.
Quelle lecture ?
Oh bah, je lisais les livres que l'on destine aux enfants, je lisais des bandes dessinées, beaucoup, je lisais des choses un peu plus sérieuses et un peu savantes. J'avais une vraie passion pour la mythologie gréco-latine, donc je lisais la collection des contes et légendes qui existait autrefois, et puis un peu plus tard j'ai commencé à lire les classiques. J'aimais beaucoup le théâtre aussi, Molière, Shakespeare, un peu plus âgé bien sûr.
Je me demande, et je vous pose la question, vous êtes à mon sens la meilleure personne à qui la poser cette question, en quoi la littérature nous fait grandir.
Je pense qu'elle est indispensable pour nous permettre justement de faire une expérience authentique de liberté, ne pas se soumettre aux mots des autres et se réapproprier le discours que les autres tiennent sur vous, de telle sorte que vous fabriquiez en quelque sorte le roman de votre vie. Je crois que chacun d'entre nous est l'auteur du roman de sa vie. Alors c'est un roman qui peut être purement mental et implicite, et seuls les écrivains, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un privilège essentiel, seuls les écrivains consignent par écrit en quelque sorte ce roman que chacun d'entre nous porte en lui.
J'allais vous poser une autre question, j'ai sur le bout de la langue, mais elle m'a échappé évidemment. Ah. C'est bien que j'ai la mémoire qui flanche, comme Jeanne Moreau qui claironnait en 1963 sur des mots de Serge Rezvani. Vous êtes sur France Inter avec Philippe Forest, et au cas où vous l'auriez déjà oublié, vous écoutez Boomerang.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser, sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris, ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens, pendant qu'il m'a pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Face à nos mémoires qui flanchent ce matin, il a le chic pour se rendre inoubliable, avec son inénarrable bonhomie, ses yeux marrons, de droupie, son cheveu d'un brun insaisissable. Il est une présence, une ombre, une sorte de flou qui vous laisse assez perplexe, comme après un rêve dont on essaie de se souvenir sans y parvenir, mais qui continue à vous suivre. On est somme toute quelque part entre le fantôme de l'opéra et Casper, le gentil ectoplasme de mes 13 ans, avec sa chemise violette ouverte, l'écrivain Philippe Forest, invité de Boomerang pour l'oubli. Son nouveau roman où un écrivain cherche inlassablement le mot qu'il a oublié, un mot et un souvenir qui pourrait bien être la clé de ce qu'il est. Pour être dans de bonnes conditions de recherche, il se rend sur une île isolée et par un curieux hasard, il va se mettre à photographier la mer. Quand vous êtes devant la mer, vous voyez quoi, vous ?
Ben rien justement, et c'est ce qui m'a séduit, parce que j'ai eu l'idée en décrivant cette page blanche dont nous parlions tout à l'heure d'un paysage, et c'est ce paysage qui a pris forme sous mes yeux et qui a entraîné le roman dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
Alors à quoi ressemblent les photos que prend votre personnage ?
Ben ce sont des quasi monochromes blancs comparables aux tableaux qui se trouvent dans la chambre où il habite. Je voulais montrer comment à mesure que le langage se défait, le visible peut se reformer. D'où ce personnage de peintre, d'où ce personnage de photographe, tout ça prenant finalement la forme d'une apparition féminine qui introduit dans le roman un petit peu d'amour, puisque les lecteurs exigent que dans un roman il y ait une histoire d'amour. Donc, il y en a une ici aussi.
Ah, vous vous êtes senti forcé ?
Non, ça a été un plaisir pour moi.
Ce qui est intéressant, Philippe Forest, c'est que votre personnage s'adonne à la photographie de manière quasi obsessionnelle et il se trouve à faire presque toujours la même photo, donc avec d'infimes variations. Qu'est-ce qui se joue dans cette pratique qui n'est pas sans lien avec votre pratique de l'art littéraire ? Qu'est-ce que ça révèle ?
Ah, je pense que c'est le geste de celui qui épie le lointain en essayant de voir s'il n'y aurait pas une apparition qui serait susceptible de lui faire signe. Moi, je crois vraiment que l'art sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de littérature, de photographie, de peinture, etc., a un rapport avec cette expérience où l'on voit disparaître les choses qui étaient là et apparaître les choses qui avaient disparu.
Voilà. Alors, ce serait une quête ?
Oui,
en réalité.
Oui, c'est bien sûr une quête, ce qui donne au roman son aspect un peu policier. Enfin, encore que les lecteurs seront peut-être déçus par l'absence de solution qu'on trouve à la fin, mais il y a un aspect presque thriller dans le livre. Quelqu'un est à la recherche de quelque chose. C'est le sujet de tous les romans.
Ce qui m'intéresse quand on pense à ces photos, c'est qu'elles ne font rien apparaître, en fait, que de prime abord, elles se ressemblent toutes, sont pas singulières. De la même façon, vous écrivez que toutes les histoires se ressemblent, que toutes les histoires sont les mêmes. Depuis que je me suis mise à lire, je retrouve partout les mêmes récits. C'est ce que vous écrivez, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ben, je crois fondamentalement qu'il n'y a qu'une histoire, c'est celle que je disais, et qui donne à tous les récits leur allure de quête, simplement. Cette histoire, je l'avais appelée dans un roman précédent, Le chat de Schrödinger, l'histoire parfaite. Je crois que chacun d'entre nous est en quête de cette histoire parfaite. Une histoire qu'il a lue autrefois et qu'il a oubliée, justement, ou une histoire qui reste encore à écrire, mais qui se retrouve dans tous les récits que l'on fait. Je suis à la recherche de cette histoire parfaite. Si je la trouve, peut-être cesserai-je d'écrire. En tout cas, si je la trouve, je trouverai le récit qui donne le sens qui manque à ma vie, peut-être.
Vous la sentez venir ? Vous l'approchez ?
Oui, mais à chaque fois elle s'évanouit comme un fantôme dont on s'approche et qui se dissout lorsque le matin vient.
Ce qui est intéressant, c'est que d'un pays à l'autre, les mythes, les légendes, les grands récits se ressemblent.
Ah oui, c'est tout à fait frappant, sans que personne puisse expliquer pourquoi, sauf à supposer qu'il y a une sorte d'universalité de la condition humaine, ce que je pense assez d'ailleurs.
Ça voudrait dire, Philippe Forest, que chaque texte serait presque forcément la réécriture d'un autre texte aussi.
Ah oui, et dans mon cas, je vois tous mes livres comme composant une série à l'intérieur de laquelle chaque livre constitue comme la reprise de tous les autres. J'aime beaucoup le mot de reprise, c'est un mot auquel le philosophe danois Kierkegaard a donné un sens particulier. Il dit que la reprise, c'est un souvenir en avant. Ben, c'est une définition qui me va, parce que je crois que chaque livre, pour moi, est un souvenir, le souvenir toujours de cette même expérience dont nous avons parlé, mais avec la volonté de projeter vers l'avant et d'une façon nouvelle ce souvenir pour lui donner une forme et tout simplement pour rester vivant.
Et puis la reprise, c'est un mot de la couture, Philippe Forest. Oui, quel aussi. Travail, quel artisanat est-ce que c'est l'écriture pour vous ?
C'est Proust qui se comparait à un couturier, voilà, et qui comparait les romans, et particulièrement le sien, La recherche du temps perdu, à une robe. Oui, oui, c'est un travail très, très, très prenant, hein. Ça demande une énorme énergie, beaucoup plus pour écrire un roman que pour écrire un essai.
Puisqu'on parle de reprise, le texte que vous allez nous lire maintenant pour conclure cette émission se présente sous la forme d'une réécriture d'un passage de la Bible. Et il se trouve par ailleurs qu'il s'agit du tout début de votre prochain roman que vous nous livrez en toute amitié, un livre en devenir. Pourquoi ce texte-là ?
Il se trouve que c'est aussi un texte, je l'ai réalisé en vous écoutant tout à l'heure, qui fait parfaitement écho à votre intervention sur le droit à l'oubli sur les réseaux sociaux. On vit dans une atmosphère qui est une atmosphère de procès perpétuel, et je pense que on pourra aisément tirer du texte que je viens de lire une morale. Je ne sais pas ce que deviendra ce texte, j'en suis vraiment au tout début de ce livre, donc les choses peuvent encore changer, mais en tout cas, voilà les lignes que j'ai amenées. Et Dieu envoya Nathan à David. Ainsi parle le second livre de Samuel. Le prophète conta au roi une histoire. Il était une fois deux hommes. Le second ravit au premier la brebis qui était son unique bien et que de tout son être il chérissait comme si elle avait été sa propre fille. Furieux, le roi jugea l'individu coupable et déclara qu'il méritait la mort. Mais Nathan dit à David, « Tu es cet homme, car il n'avait pas agi autrement. » Afin de mettre Bethsabée dans son lit, la dérobant à son époux, le roi avait donné ordre que mourût l'homme dont elle était la femme. Alors, l'Éternel parla par la bouche du prophète. Il rappela au roi comment il lui avait fait don de la maison d'Israël et de Juda. David avait enfreint sa loi. En conséquence, Dieu ferait s'abattre le malheur sur lui. Toutes ses femmes, il les donnerait à d'autres qui coucheraient avec elles sous la lumière éclatante du soleil. Afin que nul n'ignore plus ce que David avait fait. La sentence était juste, que David lui-même avait rendue. Lui aussi, il méritait la mort. Le roi reconnut sa faute et il implora le pardon de l'Éternel. Il dit, « C'est vrai, je suis cet homme. » Considérant son repentir, Dieu prit pitié de lui et l'épargna. Mais afin que son crime ne restât pas impuni, il prendrait la vie à son fils. L'enfant tomba malade. Afin de fléchir le courroux de l'Éternel, David le supplia, il cessa de se nourrir et s'allongea sur le sol, s'abîmant dans son chagrin, perdant tout goût au plaisir de la terre et tout intérêt pour les devoirs de sa charge. Il pleurait. Or, le septième jour, l'enfant mourut. Comme si rien n'avait eu lieu, David reprit sa vie d'avant. Il fit à son épouse un nouvel enfant qu'il nomma Salomon, il triompha de ses ennemis et sa gloire fut sans égale. À ses serviteurs qui s'étonnaient de sa conduite et de l'aisance avec laquelle il paraissait avoir oublié sa peine, le roi répliqua « Puis-je faire revenir mon enfant ? J'irai vers lui, mais il ne reviendrait pas vers moi. » Et à Dieu, David dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je te les aurais offerts de bonne grâce, mais il est vrai que tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Un esprit brisé est le seul sacrifice qui te soit agréable. » D'un homme, ajouta-t-il, tu ne demandes rien, sinon un cœur blessé. Paul tire pour les Romains la leçon de la fable. Ô, qui que tu sois, toi qui juges, tu es impardonnable, car en jugeant les autres, c'est toi-même que tu condamnes. Chacun est un autre, et tous les hommes sont un. Il n'y a qu'une seule histoire au monde. Mais nul ne sait qu'il s'agit de la sienne, tant que le malheur ne lui tend pas le miroir où il reconnaît son visage.
Merci infiniment, Philippe Forest, pour ce texte inédit qui résume si bien la conversation que nous venons d'avoir. Merci d'être venu dans cette émission. L'oubli est publié chez Gallimard. Les mots me manquent pour dire tout le bien que j'en pense. Merci aussi, ce matin, je le dis, à toute l'équipe de Boomerang, Lola C, Léo B, Pierre M, Maud V, Valentine C et JBA. Tout de suite, les médias. Sonia, juste après ça.